Tout d'abord, merci aux œnologues bordelais d'avoir invité une œnologue toulousaine à parler aujourd'hui. Plus particulièrement, merci à Nicolas Guichard qui renforce chaque année les liens entre les œnologues toulousains et les œnologues bordelais en venant faire prêter serment aux nouveaux diplômés chaque année autour de la remise des diplômes d'œnologie à Toulouse. Alors, ce sujet est assez vaste. J'ai choisi de vous retracer rapidement une vue d'ensemble des arômes du vin avant de parler plus particulièrement de la fermentation alcoolique. Là aussi, en concertation avec Nicolas Guichard, j'ai décidé de faire une partie assez importante sur des rappels de fondamentaux et de choses de base, mais j'ai oublié les fondamentaux avant de faire un focus sur les dernières avancées. Et c'est dans le même temps la même chose pour la fermentation malolactique. Alors, commençons par cette vue d'ensemble sur les arômes du vin. Donc, classiquement, on va regrouper tous les composés contribuant au goût et aux arômes du vin en trois grandes familles. La composante dite primaire ou variétale, qui est constituée par les composés qui proviennent directement des raisins. Alors là, j'ai mis les familles principales, c'est pas une liste exhaustive. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces composés sont souvent sous forme de précurseurs dans le monde des raisins. Donc c'est le cas de la famille des terpènes qui va marquer l'arôme des cépages muscatés. C'est le cas des thiols volatiles typiques des sauvignons. Il y en a d'autres comme les toxiques pyrazines typiques des arômes de cabernet qui ne sont pas sous forme de précurseurs. Deuxième composante secondaire ou fermentaire, donc celle dont on va parler aujourd'hui, ce sont tous les composés qui apparaissent dans les phases de fermentation, aussi bien par les levures que par les bactéries. Les composés typiques de cette famille, ce sont les alcools supérieurs et les esters. On en a déjà parlé, on y reviendra. Et enfin, la composante tertiaire, ce sont les composés qui apparaissent dans les phases post-fermentaires, donc notamment dans les phases d'élevage. Donc là, on a des familles assez diverses. On a d'un côté les composés qui viennent de l'extraction du bois, notamment les composés phénoliques dont on a déjà parlé, certaines lactones, etc. Et il y a aussi des composés qui vont se former par des réactions chimiques, essentiellement des réactions d'oxydoréduction dans ces phases d'élevage. Donc si on regarde l'impact de la fermentation alcoolique, donc on va d'abord rappeler l'action des levures pendant la fermentation alcoolique. Alors les levures dans le moule de raisin, elles ont affaire tout d'abord à ces précurseurs d'arômes dont on a déjà parlé. Et puis elles ont leur disposition des nutriments, donc essentiellement des sucres et des acides aminés. Donc quand la levure va transformer le moule de raisin en vin, elle va d'abord agir sur ces précurseurs d'arômes en faisant une hydrolyse enzymatique. Donc la levure va relarguer dans le milieu extérieur des enzymes qui vont venir hydrolyser ces précurseurs d'arômes et les transformer en molécules volatiles, donc perfectibles. Ça va donner ce qu'on appelle les arômes variétaux, donc terpénol et thiol volatiles pour les familles majoritaires. Et puis la levure va, en se développant, assimiler les nutriments du moule de raisin, sucre et acides aminés, et elle va former, à partir de ces nutriments, des arômes fermentaires, donc les alcools supérieurs et les esters, qui sont vraiment les marqueurs de l'action de la levure. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'elle va former d'autres métabolites qui peuvent avoir un impact indirect sur le goût, la perception du vin. Alors, j'ai cité par exemple le glutathion qui peut agir par son action antioxydante en préservant certains arômes volatiles. J'ai cité les mannoprotéines qui sont des composés faisant partie de la paroi externe des levures qui vont se retrouver dans le vin et dont on sait qu'elles vont agir en interaction notamment avec les tanins, donc dans la perception du goût du vin. Et également le glycérol qui est un métabolite important de la levure et qui peut, dans des concentrations élevées, avoir également un impact sur le goût du vin. Il ne faut pas oublier aussi la famille des acides organiques. Il faut savoir que la levure produit pendant la fermentation alcoolique plus d'une vingtaine d'acides organiques, donc certes présents certains en petite quantité. Le principal est bien sûr l'acide acétique, il a donné la cité volatile, mais il y en a aussi d'autres, la physique physique, enfin, la physique, etc. Alors, ces arômes fermentaires, on en a parlé ce matin déjà, donc j'ai refocalisé sur les alcools supérieurs et les esters. Donc, je vous recite les noms des composés principaux de ces familles. Donc, pour les alcools supérieurs, on trouve en majorité les alcools aminiques, l'isobutanol, le propanol, le phényl de l'éthanol. Et dans les esters, on va trouver les acétates d'alcool supérieur, donc qui vont se former entre ces alcools supérieurs et l'acide acétique. La deuxième famille des esters, ce sont les esters qui se forment entre l'éthanol et les acides gras, tous deux provenant des levures. Donc leur incidence sur l'arôme du vin, on en a parlé ce matin, on arrive à peu près à attribuer un descripteur aromatique à ces composés purs. On a vu que dans le vin, en mélange, on ne retrouve pas forcément ces descripteurs, mais il y a un impact certain. Donc si on fait le bilan de tout ce qu'on trouve dans la littérature, c'est vrai que pour les alcools supérieurs en général, on va trouver des descripteurs de type alcooleuse, spiritueux, amélique, frangipane. La littérature s'accorde à dire que pour ces alcools supérieurs, il y a une concentration optimale qui va contribuer à la complexité de l'arôme du vin. Donc, il en faut, mais pas trop. Le phényl de l'éthanol, lui, va avoir un arôme marqué de rose, lui et son ester d'ailleurs. Les alcools supérieurs, eux, donc, ont toujours des descripteurs de type fruité, banane pour l'acétate d'isoamyl, et fruits blancs et rouges, d'ailleurs, pour les esters éthyliques d'acide gras, poire, ananas, pêche, notamment parmi les plus souvent rencontrés. Alors, on sait qu'au cours de la fermentation alcoolique, certains facteurs vont influer de façon significative la production de ces arômes fermentaires par la levure. Et le premier facteur qui est indéniable, c'est le type de levure. Donc le genre, l'espèce et même espèce, Saccharomyces cerevisiae, la souche de levure, va donner des profils d'alcool supérieur et d'ester différents quand elle va fermenter dans des conditions différentes. On sait également que la température de fermentation est un facteur très net qui influe sur la production de ces arômes pour une souche de levure donnée. Et on sait que des températures élevées vont favoriser la production d'alcool supérieur, tandis que des températures basses vont favoriser la production d'ester. Ensuite, les autres facteurs, on sait aussi qu'ils vont avoir un impact, mais il y a parfois des divergences dans les résultats qu'on trouve en compilant la littérature. On trouve une influence certaine de la composition azotée du moût de raisin, qui globalement va dans le sens où une concentration azotée plus élevée dans le moût donnera davantage de ces arômes fermentaires, mais ce n'est pas systématique pour tous les composés. De même pour la turbidité du moût et l'oxygénation, on sait notamment l'unification en blanc, que la turbidité du moût va influer la production d'ester. Hein, une turbidité faible du moût au départ donnera moins d'ester sur l'infini. Pour l'oxygénation aussi, on peut avoir des résultats pas toujours convergents, mais bon, en général, on remarque que l'oxygénation favorise une certaine catégorie d'esters qui va être la deuxième, les esters éthyliques d'acide gras. Alors, si je parle maintenant de nouvelles avancées concernant cet impact des levures, je ne vais pas parler de tout, le temps qui m'a parti, donc j'ai choisi de vous présenter les nouvelles avancées qui concernent les levures non saccharomyces. Ces levures non saccharomyces, qui sont elles, ce sont des levures qui sont présentes dans la flore naturelle du raisin et qui sont même majoritaires en début de fermentation alcoolique. De par leur capacité fermentaire et de par leur résistance à l'éthanol qui va être plus faible que celle des saccharomyces, à la fin de la fermentation alcoolique, on va toujours retrouver saccharomyces. Donc, je vous ai mis le nom de l'espèce de levure non saccharomyces représentative des levures du vin, pardon, des levures du goût de raisin avant fermentation, justement. Donc, schizosaccharomyces tombée, fluviomyces thermotolérance, candida stellata, pisca pulveri, ansemiaspora osmophila, corellaspora delboeti. Donc, ce sont des noms peut-être qui vous paraissent un peu barbares, mais que vous devez connaître. J'ai mis en rouge les levures qui sont présentes sur le marché pour les œnologues, comme levure sèche. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces levures et pourquoi on a pensé les utiliser en vinification? Eh bien, parce qu'elles peuvent modifier les profils aromatiques et gustatifs des vins. Donc, par exemple, la schizosaccharomyces pondée peut désacidifier de façon très efficace les vins en éliminant totalement l'acide malique du raisin. La Cluviomyces, au contraire, elle va acidifier en produisant de l'acide lactique. L'acide lactique est un acide plus doux que l'acide malique et bon, peut-être qualitatif pour le vin. La Candida stellata, pour cette levure, on a isolé des souches qui vont surproduire en fait du glycérol, donc qui vont arriver à multiplier par deux la concentration du glycérol par rapport aux teneurs classiques, et donc à ce niveau-là, il devient perceptible sur le bras du vin, notamment. Ensuite, on a isolé et caractérisé des souches de Pisca pulveri qui vont avoir une activité marquée d'hydrolyse des précurseurs dont on a parlé tout à l'heure, donc qui va renforcer la libération des terpénols et des sols volatiles dans les vins. Pour Ansemiaspora osmophila, on a isolé des souches capables de produire des quantités de phényl de l'éthanol, donc arôme de rose, jusqu'à 10 fois supérieures à celles produites par Saccharomyces. Donc là encore, ça va avoir un effet marquant sur l'arôme du vin. Et enfin, la dernière levure, la Corellaspora delboeti, à laquelle je vais parler un petit peu plus, elle a des profils de production d'esters fermentaires. Je rappelle les notes fruitées, qui sont assez différents des Saccharomyces. Alors, quand on veut utiliser des levures non Saccharomyces, quand on est œnologue et qu'on veut utiliser des levures non Saccharomyces, la question se pose de savoir comment les utiliser. On veut quand même toujours assurer la majeure partie de la fermentation alcoolique par Saccharomyces, parce que c'est la seule garantie d'arriver à une fermentation complète et normalement sans déviation, en viande lactique. Et on veut donc favoriser l'action des non-saccharomyces en début de fermentation pour avoir un impact sur le profil aromatique. Pour que cet impact existe, il faut bien que la non-saccharomyces elle puisse se développer au début de la fermentation. Alors, plusieurs stratégies ont été proposées, mais d'abord, je vais vous montrer le résultat d'expérience qu'on a fait dans mon laboratoire. Qui explique quelle est la problématique. Donc, on veut favoriser l'action de la non-saccharomyces, mais on sait qu'il y a toujours une compétition avec la saccharomyces. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ces expériences? On a suivi la croissance de la Corellaspora inoculée dans le mou, dans différents cas, pour différentes fermentations. Donc, en rouge, la Corellaspora quand elle est pure, quand elle est toute seule. Donc, cette souche, c'est une levure qui se développe très bien et qui finit la fermentation en plus. Ensuite, en noir, j'ai représenté le cas d'une inoculation séquentielle, c'est-à-dire on met la Corellaspora au début et 48 heures après, on met Saccharomyces. Donc, vous voyez que ça correspond ici à la flèche. Donc, la Corellaspora, tant qu'elle est seule, elle se développe bien. Et dès qu'il y a Saccharomyces qui arrive dans le milieu, la population diminue. Et enfin, les deux dernières courbes, bleues et vertes, représentent des cultures mixtes, c'est-à-dire des co-inoculations. On a inoculé en même temps la Corellaspora et la Saccharomyces dans des proportions différentes. Donc, en bleu, 95% de Corellaspora, en vert, 66% de Corellaspora. Vous voyez que dans les deux cas, non seulement la croissance est moins bonne au début de la Corellaspora, mais elle décline encore plus vite et elle va décliner d'autant plus vite qu'elle était peu présente au départ. Donc ça veut dire qu'en présence de Saccharomyces, il y a toujours déclin de Corellaspora. Et c'est la raison pour laquelle, pour les produits qui sont présents disponibles sur le marché, les stratégies proposées finalement vont tenir compte de ce phénomène. Donc la souche, pour la souche proposée par l'allemand, on préconise une inoculation séquentielle, donc la Saccharomyces, après une chute de densité de 10 à 15 points accompagnée d'un ajout d'azote. En ce qui concerne la souche proposée par la FOR, selon qu'on a affaire à des vins liquoreux ou à des vins secs, l'inoculation proposée est soit simultanée avec des proportions différentes, bien sûr en faveur du Thoriaspora, soit séquentielle, décalée de 24 à 72 heures, là encore avec une majorité de Thoriaspora. Et il existe aussi des souches proposées par Hansen qui sont proposées soit directement en mélange. D'ailleurs, il y a des mélanges de trois souches, Thoriaspora, Thoriaspora et Saccharomyces proposées, ou en pure. Et quand la Thoriaspora est proposée pure, là aussi, c'est une co-inoculation qui est recommandée. Alors, voyons un exemple de résultat. Ce sont des travaux faits par l'Allemand sur du chardonnay. Donc, c'est le cas d'une inoculation séquentielle, hein, Thoriaspora d'abord, puis Saccharomyces après une chute de densité de 10 à 15 points. Donc, les résultats en rouge en termes de dosage de certains des esters fermentaires dont on a parlé. Donc, on voit bien qu'il y a des profils analytiques différents, à savoir des concentrations d'esters différentes quand on compare par rapport aux témoins Saccharomyces seuls. Et ce qui est remarquable pour Thoriaspora également, et ça c'est vrai pour quasiment toutes les souches de Thoriaspora, on a toujours moins d'acidité volatile qui est produit en fermentation séquentielle. Et ça aussi, ça va impacter bien sûr le goût et l'arôme du vin, c'est plutôt positif. Donc ces résultats analytiques différents dans le cadre de cet essai sont également associés à des profils aromatiques différents. On passe sur le profil toujours séquentiel en rouge. On va avoir une note supérieure de fruits frais. Si on passe maintenant à la fermentation malolactique, alors là aussi, je vais rappeler ce qu'on connaît de l'action des bactéries lactiques pendant la fermentation malolactique. Il faut dire que c'est quelque chose qui est quand même encore moins bien connu, moins bien décrit que la fermentation alcoolique. Donc la bactérie lactique, quand elle intervient après la fermentation alcoolique, il reste encore des précurseurs d'arômes, notamment des terpènes et mucosylés. Il y a l'acide malique, bien sûr, qui va être son principal substrat. Et il reste aussi des nutriments qu'elle va pouvoir utiliser, comme l'acide citrique et des acides aminés. Donc il a été montré que les bactéries lactiques, elles aussi, vont avoir une action sur l'hydrolyse des précurseurs d'arômes, hein, par le même processus d'hydrolyse enzymatique, elles peuvent libérer notamment le terpénol. Bien sûr, en transformant l'acide malique en acide lactique, là aussi, elles vont avoir une influence sur le goût du vin, puisqu'on passe d'un diacide à un monoacide. La bactérie lactique va produire aussi des arômes fermentaires. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Le plus connu est le diacétyl, produit par assimilation d'acide citrique. Mais on sait qu'il y en a d'autres. Par exemple, à partir de certains acides aminés soufrés, on a montré que la bactérie lactique peut produire donc cette molécule qui va donner des arômes fruités. Elle produit aussi des esters, comme la tadéthyl et cétinadéthyl, et également des polysaccharides. Alors, le marqueur de l'action des bactéries pendant la fermentation malolactique, c'est vraiment le diacétyl. Le diacétyl est son arôme beurré qui va être perceptible à quelques milligrammes par litre de cette molécule. Ce diacétyl, une fois qu'il est produit dans le vin par la bactérie lactique, il n'est pas forcément stable, puisque en fonction des conditions redox, il peut être transformé en d'autres molécules moins odorantes. Par exemple, c'est ce qui peut se passer quand on fait de l'élevage sur l'eau. Il ne faut pas oublier que le premier impact de la fermentation malolactique, c'est quand même la baisse de l'acidité. C'est pour ça aussi qu'on l'utilise. Et qui dit baisse de l'acidité, augmentation du pH, forcément une influence sur la couleur, mais aussi sur le goût du vin. Et finalement, quand on fait là encore de la bibliographie sur ce sujet, ben, on voit que l'impact de la fermentation malolactique est global et assez variable. En général, on s'accorde à dire que la fermentation malolactique fait gagner en rondeur, en complexité, le vin, c'est ce que j'ai aussi constaté. Pour ce qui concerne le fruité, on trouve des résultats divergents selon les cas, selon les conditions d'utilisation. Alors, là aussi, les nouvelles avancées, ça qu'on s'intéresse depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la co-inoculation. Donc, le principe consiste à inoculer les bactéries lactiques de façon très précoce, 24 à 48 heures après le démarrage de la fermentation alcoolique. Donc, on appelle ça de la co-inoculation, mais il y a un décalage, hein. C'est pas de la co-inoculation comme on le fait avec les levures, c'est plutôt une inoculation séquentielle. On appelle ça la co-inoculation. Donc les préalables, ce sont tout d'abord de s'assurer que la souche de levure et la souche de bactéries qu'on va utiliser ensemble sont bien compatibles, parce qu'on sait maintenant que toutes les souches de bactéries ne peuvent pas marcher avec toutes les levures hein, pour valider la fermentation malolactique. Il faut bien sûr que la fermentation alcoolique soit sécurisée, qu'on n'ait pas de risque d'arrêt de fermentation. Et puis, bon, c'est plutôt recommandé pour certains types de vins rouge léger ou certains blancs où, justement, on va rechercher les arômes fermentaires. Les conséquences et les résultats, c'est que la durée de la fermentation malolactique est toujours plus rapide. Ça, c'est systématique, que quand on fait une inoculation classique après la fermentation alcoolique, hein, on a une fermentation malolactique qui est 2 à 3 fois plus rapide, et c'est le premier intérêt de la co-inoculation. Et très souvent, on a des profils aromatiques différents, avec en général plus de fruité. Il faut noter que dans le cadre de la co-inoculation, la bactérie lactique va se développer beaucoup plus que dans le cas d'une inoculation post-FA. Et donc c'est logique que l'impact soit différent. Donc en conclusion de cet aperçu assez rapide, je dirais que les fermentations alcooliques et malolactiques ont un impact indéniable sur le goût et les arômes du vin, mais c'est parfois difficile de dégager des généralités ou des recettes qui marchent de façon systématique. Il est certain que la souche, que ce soit levure pour la fermentation alcoolique ou bactérie pour la fermentation malolactique, a une importance considérable. Mais attention, une souche donnée ne va pas se comporter de la même façon en fonction des conditions opératoires dans lesquelles elle va se retrouver. Et donc finalement, les dernières avancées réalisées en oenologie ces dernières années concernent l'utilisation des levains mixtes. Et bon, on peut dire que c'est, en tout cas en ce qui concerne les levains mixtes de levure, c'est une façon d'utiliser la biodiversité naturelle du moût de raisin de façon un peu plus contrôlée, de façon un peu plus sécurisée. Je vous remercie de votre attention.